Laurent Cordonnier, bonjour.
Bonjour.
En ce moment, il y a un sujet comment dire, qui amène beaucoup de discussions, c'est la loi sur le travail, les salariés qui ne sont pas assez flexibles. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
En effet, l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement prétendait opportun de réformer le marché du travail, l'une des deux raisons, c'est qui sont à peu près toujours les mêmes depuis 25 ans, l'insuffisante flexibilité des règles d'embauche et de traitement de la main-d'œuvre et les difficultés pour licencier, les difficultés qu'éprouveraient les patrons pour licencier, qui créent, selon le gouvernement, un risque entrepreneurial supplémentaire qui dissuade les patrons ou les dirigeants d'entreprise d'embaucher. Autrement dit, l'analyse qu'il y a derrière de nos difficultés économiques et en particulier du fait que la croissance ne revient pas et que l'emploi ne s'améliore pas ou très peu, l'analyse de ces difficultés, c'est que les salariés seraient trop rigides et que les patrons feraient face à un risque d'entreprise trop élevé quand ils embauchent, parce que en cas de revers de fortune, ils auraient des difficultés à licencier. Alors ça, c'est vraiment une question qui mérite d'être prise à beaucoup d'égards, mais la première chose qu'il faut dire quand on réfléchit à ces questions, c'est ne pas se laisser impressionner par l'accusation, si j'ose dire, parce que en réalité, les salariés français, à la fois en droit et en fait, ne sont pas du tout rigides. Et peut-être que la première chose à faire remonter à la surface, c'est la durée des contrats que signent les salariés sur le marché du travail. Je ne sais pas si nos contemporains, d'ailleurs, ont des ordres de grandeur dans la tête, mais je pense qu'ils ont de quoi être surpris si on les annonce. Le contrat à durée indéterminée en France.
Le CDI.
Le CDI, qui est, semble-t-il, le nirvana, celui auquel tout prétendant salarié aspire, en particulier notre jeunesse, elle a bien raison. La durée médiane d'un CDI en France, médiane, ça veut dire que la moitié des contrats ont une durée supérieure effective à ce que je vais dire, et l'autre moitié une durée inférieure. La durée médiane d'un CDI en France, c'est quand même pas 40 ans, c'est pas 30 ans, c'est pas 20 ans, c'est pas 10 ans, c'est 24 mois.
24 mois.
24 mois. Bon,
mais on comprend pourquoi les entreprises d'intérim embauchent souvent en CDI.
Oui, tout à fait. c'est leur pratique habituelle. Donc ça, c'est de l'ironie. Mais 24 mois, ça veut dire que c'est le contrat à durée indéterminée est loin d'être un contrat ad aeternam ou à durée infinie. C'est au contraire plutôt en moyenne un contrat assez court, alors qu'il se termine de différentes manières, de différentes façons. Ça peut être un salarié qui part à la retraite et qui avait obtenu un contrat 24 mois avant. Ça peut être un salarié qui démissionne pour changer d'emploi ou parce qu'il veut se retirer de l'activité. Ça peut être un salarié licencié pour différentes raisons et pour certaines économiques. Bon. Donc, il y a sans doute plusieurs raisons de terminer un CDI, mais on se rend compte que ce n'est pas l'emploi à vie. Le CDI. Et on se rend compte que, en réalité, les travailleurs quittent souvent un poste pour aller en occuper un autre. Alors, soit dans un autre établissement, soit dans une autre entreprise, parfois même dans une autre région. Et qu'en réalité, le marché du travail n'est pas du tout quelque chose de figé et encore moins de glacé, n'est-ce pas ? Et à peu près, je ne sais pas, ce chiffre non plus n'est pas dans l'esprit de nos contemporains. Il y a entre 20 et 25% des salariés, 4 à 5 millions, qui chaque année changent de poste éventuellement dans leur entreprise, donc ne font plus ce qu'ils faisaient la veille, changent de poste dans un établissement de l'entreprise ou changent d'entreprise ou se retirent du marché du travail ou rentrent sur le marché du travail. Autrement dit, les salariés sont flexibles et mobiles, un point dont on a, je pense, généralement pas idée. Alors ça, c'est le CDI. Alors, si on va regarder ce qu'est un CDD, la durée médiane d'un contrat à durée déterminée, c'est 2 semaines.
2 semaines.
2 semaines, d'accord. Bon. Et la durée moyenne d'une mission d'intérim, c'est 1,7 semaine. Bon. Je pense que c'est important de redire ces choses parce que le premier coup de force ou la première violence qui est faite aux salariés, c'est cette image qu'on leur renvoie de personnes peu dynamiques, attendant leur rente mensuelle à la fin de leurs 35 heures, incapables de se solidariser avec le risque entrepreneurial et finalement la logique de l'entreprise. C'est vraiment pas du tout ça. C'est vraiment pas du tout ça. On n'est pas du tout devant un marché du travail où rien n'est possible, où on ne peut pas redéployer la main-d'œuvre, où on ne peut pas licencier. L'état des choses n'est pas celui-là. Donc c'est extrêmement important, parce que quand on parle des questions de réforme du marché du travail, évidemment qu'il ne faut pas s'opposer, enfin, tant qu'on est dans un régime concurrentiel et capitaliste, évidemment que si on s'oppose de manière brutale à toute possibilité de redéployer la main-d'œuvre, on grippe la machine, si j'ose dire. Bon. Mais donc quand on discute de ces questions-là, c'est forcément une question de curseur. C'est forcément une question de curseur. Et on peut penser quand même là que le curseur est déjà au niveau quasiment zéro. Donc demander une fois de plus aux salariés, d'une certaine façon, de prendre encore plus à son compte le risque entrepreneurial, moi je pense sincèrement qu'on est dans l'exagération, c'est sûr. Dans la perversité, c'est presque sûr.
Oui, j'ajoute qu'il y a quand même des gens qui sont très friands des CDI. Ce sont par exemple les banquiers, quand ils vous accordent un prêt, si vous êtes en CDD, pas question. Alors je me demande bien comment ils vont pouvoir juger leur scoring sur les dossiers de prêt, par exemple. Hein.
Et on pourrait en effet tout à fait dire que, mais vous allez voir, c'est pas juste ce que je vais dire, mais on pourrait dire que, en effet, l'appétit pour le risque des entreprises, que ce soit des entreprises industrielles, de services ou financières comme les banques, l'appétit pour le risque est à géométrie très variable. Hein. Alors en réalité, non, il n'est pas à géométrie très variable. En fait, c'est pas du tout un appétit pour le risque. Et là aussi, hein, il faut complètement se décoloniser l'esprit, comme dit Serge Latouche à certaines occasions. Les riscophiles, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui aiment le risque, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas une. On n'en rencontre pas. Les anthropologues n'en rencontrent pas. Les experts animaliers n'en rencontrent pas. Personne n'aime le risque, y compris l'investisseur ou l'entrepreneur, et y compris l'actionnaire. D'accord ? Tout le monde essaye de se protéger du risque et tout le monde essaye d'éviter d'en prendre. Bon. À part, disons, les adolescents entre 17 et 19 ans qui montent sur des parapets de pont pour se mettre en danger, mais à part ces moments un peu particuliers de la vie, ça n'existe pas, les gens qui ont un appétit spontané pour le risque. Donc d'une certaine manière, tout le monde essaye de s'en défausser un petit peu sur les autres, et évidemment, ceux qui y arrivent le mieux sont ceux qui sont en position de force. Aujourd'hui, tout part des marchés financiers. Et depuis, disons, une quinzaine ou une vingtaine d'années, par des transformations historiques qui sont assez compliquées et tortueuses, les actionnaires sont revenus en position de faire supporter tous leurs risques de revenus à l'entreprise. Alors, pour parler maintenant de manière moins techno, ça veut dire que l'exigence qui pèse sur la plupart des entreprises, et pas seulement le big business, hein, ça descend très loin dans le tissu économique, les actionnaires sont en position de force et sont capables de réclamer, quoi qu'il arrive, que l'entreprise leur apporte du 10 à 15% par an. C'est-à-dire que que le montant des dividendes qu'on leur verse doit être égal à peu près à 10% de la mise de fonds qu'ils ont apporté un jour ou l'autre à l'entreprise. 10%, 15%, parfois même 20%. Quand il s'agit d'entreprises très risquées.
Bon, à Auchan, c'est 15%, je vous dis ça, c'est officiel.
Oui, voilà. Dans certains secteurs industriels, ça peut être plus, parce que ces seuils de rentabilité doivent compenser justement ce risque, que personne n'aime prendre. Bon. Mais seulement, eux ont les moyens de se faire payer ce risque qu'ils prennent, et qu'ils veulent éliminer. Parce que comme dit Frédéric Lordon, c'est « attention ». On veut du 15% quoi qu'il arrive. Et ce que Frédéric Lordon formule les choses en disant, c'est le SMIC du capital. C'est le SMIC du capital. Alors, vous comprenez qu'il a un niveau quand même un peu plus élevé que le SMIC du travailleur, n'est-ce pas? Mais on est bien, depuis 30 ans, depuis la révolution financière, depuis la globalisation financière, on est bien dans ce régime. Ou par des canaux... compliqué, qu'il faudrait prendre le temps d'exprimer, mais qu'on peut appeler le canal de la discipline du marché ou le canal de l'activisme actionnarial, les actionnaires sont dans cette position de pouvoir. Réclamer quoi qu'il arrive, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, que l'entreprise connaisse bonne ou mauvaise fortune, que les profits soient élevés ou faibles, qu'elle soit en danger ou pas, sont en mesure de réclamer que, pardonnez-moi l'expression, qu'elle crache ses 15% par an pour l'actionnaire. Alors on comprend bien que une fois que cette exigence est posée, ce qui va complètement à l'encontre, on pourrait dire, c'est presque antinomique du capitalisme. Le profit est par nature un revenu incertain, et c'est par nature un revenu résiduel qu'on se partage quand il existe. Et il y a des bonnes années et il y a des mauvaises années. Et si les capitalistes sont protégés dans leur prise de risque, par exemple par la clause de responsabilité limitée, c'est aussi parce que normalement, ils sont censés prendre ce risque entrepreneurial, ce qu'ils ne veulent plus prendre aujourd'hui. Bon, donc on est quand même dans une conjonction extraordinaire, on pourrait dire, extraordinaire même du point de vue de la philosophie morale, politique et économique du capitalisme et de la revendication qu'a l'entreprise à gouverner la production, la répartition et la consommation. Conjonction tout à fait extraordinaire parce que précisément la finance gouverne.
Donc la finance gouverne, si les résultats sont pas là, de toute façon, ben on va vendre les actifs de l'entreprise, par exemple.
Alors pas tout de suite. Si les résultats sont pas là, il y a quand même différentes manières de continuer à faire comme s'ils étaient là, et pendant un certain temps. L'entreprise qui ne fait pas beaucoup de profit peut tout à fait s'endetter pour verser des dividendes quand même, d'accord, pour assurer la stabilité, la sécurité du revenu des actionnaires, le SMIC du capital, hein, dont parle à juste titre Frédéric Lordon. Donc là, c'est une stratégie possible. D'accord. Une autre stratégie possible, c'est essayer de s'engager dans des fusions-acquisitions qui peuvent éventuellement dissimuler pendant un certain temps la faiblesse d'un certain nombre de projets entrepreneuriaux dans des ensembles plus vastes. Donc on ne vend pas tout de suite les actifs et l'argenterie de famille, mais effectivement, en dernier recours, c'est ce qu'on fait. Voilà ce qu'on peut dire.
Voilà, bon, donc on justifie aussi cette loi travail par la crise. La grande crise, les entreprises semblent avoir beaucoup de difficultés à développer des nouveaux marchés, à trouver de nouvelles idées, à se lancer justement dans leur rôle de, comment dire, de création.
Mmh. De création de richesse.
Création de richesse. Or, la situation pour eux, pour les entreprises, n'est pas si mauvaise, semble-t-il.
C'est bien aussi ce qui doit conforter les opposants à cette loi, c'est que c'est pas le sujet, en fait. C'est pas le sujet. La flexibilité, les risques entrepreneuriales liés au licenciement, c'est très très peu le sujet. En fait, on s'intéresse à une tête d'épingle, alors que par ailleurs, il y a sans doute énormément de causes massives qui peuvent expliquer les performances piteuses, il faut le dire, du capitalisme dans les pays développés depuis une trentaine d'années, dans les pays de l'OCDE. Et si on regardait les choses avec davantage d'objectivité ou de soin, qu'est-ce qu'il faudrait se dire ? Il faudrait se dire, mais c'est quand même, la situation actuelle est extrêmement bizarre. Parce que du point de vue conjoncturel et de leur environnement macroéconomique, les choses ne pourraient pas aller mieux pour les entreprises. Je ne sais même pas si on peut faire le compte de tout ce qui va bien dans l'environnement des entreprises. Les taux d'intérêt sont quasi nuls. Ils n'ont jamais été, dans l'histoire du capitalisme, aussi bas. Quasi nuls. Donc les entreprises peuvent s'endetter à des taux d'intérêt qu'elles n'ont jamais connus jusqu'ici.
Voilà, 3-4%, c'est ça à peu près pour l'entreprise. Ouais, hein.
C'est ça. Ce qui est extrêmement faible. Deuxième chose, en tout cas pour les sociétés européennes, ou résidents, ou fabricants en Europe, le taux de change de l'euro s'est considérablement affaibli ces 15 derniers mois, ce que désiraient depuis longtemps les entreprises. Et donc, normalement, on aurait dû doper, comme on dit, leur capacité de vendre à l'export. Les prix du pétrole, nous avons un contre-choc pétrolier depuis un an et demi, qui est aussi d'une ampleur inouïe, inédite. À tel point qu'on pourrait presque penser que les prix du pétrole allaient rentrer sous terre. Du côté de la conflictualité sociale, c'est le calme plat. Je pense, il faudrait vérifier les chiffres, mais les grèves, les mouvements de grève ou les perturbations dans le secteur de l'économie privée sont à peu près revenus à ce qu'ils étaient avant la création de la CGT. Bon. Donc si on fait un peu le compte de tout ce qui pousse dans la bonne direction, on pourrait dire en prenant des expressions de commentateurs habituels que tous les feux sont au vert, enfin tous les clignotants sont au vert, et ce qu'on devrait observer en réalité, c'est un boom et même une frénésie d'investissement et de projets entrepreneuriaux. Or, visiblement, ça ne redémarre pas, bon, sauf si on commente les 60 000 créations d'emplois du dernier mois. Mais apparemment, la reprise n'est pas là du tout. Et pas du tout, enfin, on nous promet 1,5 de croissance ou 1,5 de croissance par an. Autrement dit, j'ai pratiquement la conviction qu'on nous demande de regarder au mauvais endroit, quoi. Encore une fois, en désignant les salariés et leur prétendue rigidité comme responsable de la situation économique piteuse de ces 7-8 dernières années, on veut nous faire oublier la crise financière, on veut nous faire oublier la rigueur budgétaire prolongée en Europe, et on veut nous faire oublier toutes les raisons plus profondes qu'on n'a pas abordées ici, mais toutes les raisons plus profondes qui font que le capitalisme a de plus en plus de mal à se déployer de manière hégémonique et impériale pour gouverner l'ensemble des aspects de la production, de la répartition et de la consommation.
Vous êtes économiste. Quel est le sujet qui vous semble le plus méconnu du public sur le plan économique ? Bon, vous venez de nous présenter deux choses extrêmement intéressantes qu'on ne retrouve pas dans la presse habituelle.
C'est une excellente question. Il faut sans doute pour l'examiner objectivement, il faudrait me laisser 10 ou 15 jours de réflexion. Mais donc, chacun y répond de là où il est à cette question et de son propre point de vue, avec vraiment sa subjectivité et puis ses centres d'intérêt. Pour ma part, je pense que la question qui est la plus ignorée, et en tout cas celle qui mériterait vraiment d'être en permanence ramenée au premier plan de tout tableau économique, c'est précisément cette domination de la finance sur l'entreprise. Bon. Et qu'il faudrait, encore une fois, pratiquement rappeler tous les jours quand on parle de l'entreprise, quand on parle des difficultés économiques. Alors, Pour quelles raisons? Ben, pour quelques raisons qu'on a dites tout à l'heure, mais parce que c'est sans doute cette exigence de rentabilité de l'ordre de 15% sur fonds propres, imposée depuis une vingtaine d'années à toute forme d'entreprise, c'est sans doute ça qui corsette le plus le développement des entreprises et l'emploi. Parce que qu'est-ce que veut dire cette injonction? Cette injonction veut bien dire tout simplement que, comme on dit dans le Nord, tout ce qui a un projet d'investissement qui ne ramène pas du 15% par an, il peut le remettre dans sa poche. D'accord, il pose l'addition sur le papier, enfin en réalité c'est un quotient, il pose le quotient sur le papier, et s'il pense que son projet ne rapporte pas ça dans les 5 ans ou 6 ans qui viennent, il ne le mettra pas en œuvre. Autrement dit, la finance par cette norme, par ce seuil, c'est presque la barre de saut en hauteur dans un concours d'athlétisme, par ce seuil qu'elle met, ce seuil de performance financière, elle élimine tout un monde qui n'existera jamais. C'est le monde des projets, d'entreprises, d'investissements, économiquement utiles, socialement pertinents, écologiquement intéressants. C'est tout un monde de projets d'investissement qui rapporte entre 0 et 15. Ce monde n'a plus le droit de citer. Bon. Après qu'on s'étonne que l'emploi soit difficile à créer dans ces circonstances, pour moi, c'est plus depuis longtemps un sujet d'étonnement. D'accord ? Et après, on pourra faire tout ce qu'on veut, pousser tant que cette norme existe. Tant que ce pouvoir est impérial, on pourra tous faire tout ce qu'on veut par ailleurs, essayer de débloquer une cale ici, tirer sur une tête d'épingle là, s'occuper du marché du travail à cet endroit-là. Ça reviendra vraiment à pousser sur une corde pour faire avancer l'âne. Hein? Le seul moyen de tirer sur la corde, c'est de desserrer le joug de la finance sur l'entreprise.
Et comme ça, l'entreprise pourra prendre un risque, ou du moins l'investisseur pourra prendre un vrai risque.
Non, mais bien entendu. Tant qu'on est dans une économie d'entreprise privée, on peut souhaiter vivre dans un autre monde, mais tant qu'on est dans celui-là, il ne faut pas se raconter d'histoire. Libérer l'entreprise, ça n'est pas libérer l'entreprise du carcan du marché du travail. Libérer l'entreprise, c'est libérer l'entreprise du carcan de la finance.
Laurent Cordonnier, merci beaucoup.
Non, c'est moi. Merci.